FM, 11h30 sur Vivre FM, la vie des entreprises.
Annelise Farcoa.
Vous êtes ou avez été salarié, vous avez donc forcément eu affaire à lui une ou plusieurs fois dans votre carrière. Il s'agit du médecin du travail. Alors, quel est le rôle exact du médecin du travail que tout salarié doit normalement rencontrer au moins une fois tous les deux ans? Quelles sont ses relations avec les entreprises? Qu'est-ce que nous, salariés, nous pouvons attendre de lui? Ce sont toutes ces questions et bien d'autres encore que je poserai ce matin à mon invité Ange Mésadry. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans la vie des entreprises. Vous êtes vous-même médecin du travail. Vous allez nous aider à comprendre votre rôle et surtout les aides que vous pouvez apporter concrètement aux salariés. Merci à vous qui nous écoutez. Très belle journée à tous.
La vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de la vie des entreprises. Nous sommes en compagnie ce matin d'Ange Mésadry, médecin du travail. Alors, les services de santé au travail, anciennement nommés médecine du travail, ont pour mission préventive de veiller à la protection de la santé des salariés. Ils évaluent leur aptitude à exercer leurs fonctions sans risque pour leur santé. Pourquoi, docteur Mésadry, ce choix de devenir médecin du travail ?
Oh, sans doute parce que j'étais très intéressé par toutes les questions environnementales. Le lien entre l'environnement et la santé. Et effectivement, le monde du travail et de facto la santé au travail, c'est un modèle assez intéressant parce qu'il y a une interaction immédiate de l'environnement sur l'état de santé des personnes. Ça, c'est une chose extrêmement intéressante à étudier quand on s'intéresse aux questions environnementales, ce qui est mon cas depuis très longtemps. Il y a aussi le fait que c'est un milieu très riche. Parce qu'effectivement, nous pouvons voir en tant que médecin du travail des métiers dont nous ignorions même qu'ils puissent exister. Et en fait, la santé au travail, je parle de la spécialité. Je sais que vous allez m'interroger sur l'institution, mais là, je parle de la spécialité, puisque les médecins du travail sont des médecins spécialistes, comme les cardiologues, les ophtalmos, les psychiatres ou d'autres spécialités médicales. La spécialité en elle-même est passionnante parce que c'est aussi vaste que la médecine et c'est aussi vaste que le travail. Donc il y a toujours des choses à apprendre. Maintenant, l'institution médecine du travail, c'est une autre histoire.
Alors, avant de rentrer dans les détails de vos actions, est-ce que vous pouvez résumer votre rôle ? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément, on sait que ça existe un médecin du travail, enfin quand on est salarié ou quand on l'a été, mais on ne sait pas vraiment... Quel est son rôle, en fait ?
Alors, il faut revenir à la définition légale. La loi dit le rôle de la santé au travail, des services de santé au travail, en l'occurrence du médecin du travail, c'est de prévenir les altérations de la santé des travailleurs du fait de leur travail. C'est ça le rôle des médecins du travail. Alors, beaucoup de gens pensent que les médecins du travail sont des sortes de généralistes dans une entreprise, mais nous ne sommes pas là pour faire des actes de soins. Sauf cas d'urgence, bien évidemment. Nous n'avons pas à nous substituer aux médecins traitants, nous n'avons pas à nous substituer aux spécialistes d'autres disciplines. Nous avons un champ particulier qui est de faire en sorte que les conditions de travail n'altèrent pas la santé des salariés ou des travailleurs. C'est plus vaste que salariés. Mais également, depuis la loi de 2011, et c'est très important dans une radio comme Vivre, effectivement, de faire en sorte que toutes les personnes qui ont un état de santé altéré puissent être maintenues dans l'emploi. Voilà, nous avons un rôle préventif dans le champ de la santé au travail et dans le champ du travail.
Alors, chaque salarié doit obligatoirement, ça c'est vraiment une obligation légale, passer par le médecin du travail avant l'embauche. Ou au plus tard, avant l'expiration de sa période d'essai, dans quel but ?
Alors là, vous me posez une question difficile, vous allez vous comprendre pourquoi.
Vous voulez que j'en pose une autre et puis on
passe. Non, au contraire, vous allez voir, elle est très bien cette question-là, parce qu'aujourd'hui, la législation vous donne raison, heureusement ou malheureusement, elle va changer dans peu de temps.
Ah.
C'est d'où la difficulté de vous répondre. Effectivement, si la loi ne change pas, effectivement, tous les salariés sont amenés à passer des visites d'embauche. Ça, c'est ce que dit la loi. Maintenant, ça se produit, ça ne se produit pas, c'est un autre sujet. Alors, l'idée, c'était de voir si, effectivement, leur état de santé leur permettait de tenir les fonctions qui allaient être les leurs. compte tenu des contraintes du poste de travail, des contraintes du métier.
Oui, parce que le futur salarié n'est pas forcément informé des difficultés qu'il risque de rencontrer.
Alors, vous anticipez sur la loi, là, précisément, c'est ce que demanderait la nouvelle réglementation si elle est votée. Je dis si elle est votée parce qu'elle fait partie dans le projet de loi de Mme El Khomri, donc comme il y a des débats au Parlement à ce sujet, mais si cette partie de la loi que porte le nom du ministre du Travail passe, et je ne vois pas pourquoi les textes relatifs à la santé au travail ne passeraient pas, hein, et là, effectivement, les visites d'embauche faites par les médecins du travail pourraient être remplacées par des sortes d'entretiens où les salariés seraient informés des risques qu'ils courent du fait de leur métier. Les visites d'aptitude telles que vous en parlez, qui était, je veux dire, le modèle ancien, toujours présent tant que la loi n'est pas modifiée, mais qui pourrait être bouleversée à partir du mois de juillet si la loi est votée, là, effectivement, ne serait plus assujetti à passer des visites d'embauche que les personnes exposées à des risques potentiellement dangereux, vous voyez, que l'on connaît, ou éventuellement, et également les personnes qui sont sur des postes dits de sécurité, ou des postes qui peuvent éventuellement amener à des dangers pour les tiers. Vous voyez, ça réduit le champ d'intervention de beaucoup. Alors, le but, là aussi, si vous voulez, c'est de contrôler l'aptitude. Pour prendre une image caricaturale, on ne voit pas comment on pourrait laisser quelqu'un conduire un avion si on n'est pas sûr qu'il a toutes les qualités physiques requises, vous voyez. Mais effectivement, à l'instant où nous parlons, la loi n'a pas changé, mais elle pourrait changer... En juillet. Donc peut-être que ça serait bien que vous me réinvitiez pour en reparler
avec
au mois
plaisir.
De septembre.
L'invitation est lancée. Alors, si on prend vraiment ce qui se passe actuellement, vous, quand vous recevez un futur salarié dans une entreprise, quelles sont les questions que vous lui posez pour savoir s'il est apte ou pas apte ?
Alors, c'est un examen ou un entretien ou un examen, les deux vont de pair, bien sûr, qui est centré sur le travail. Par exemple, les pathologies autres, éventuelles, mais qui n'auraient aucun retentissement sur les capacités de travail, à la limite, c'est intéressant de les noter, certes, mais ce n'est pas le cœur du métier, vous voyez. Nous posons des questions relatives aux contraintes liées au poste de travail dans les entreprises dont nous avons la charge. Donc, ça nécessite de connaître peu ou prou l'entreprise dans laquelle les salariés travaillent et bien sûr les conditions précises de travail.
Ce qui n'est pas forcément le cas, parce que vous ne pouvez pas connaître toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'avant de recevoir la personne, vous savez déjà, vous avez déjà un dossier, sachant qu'il va travailler dans une entreprise de transport, dans une...
Alors, oui, c'est ce que nous... Alors, il y a une double législation, si vous voulez, qui fait presque, entre guillemets, double emploi. Les employeurs sont obligés d'établir ce que l'on appelle le document unique, où il y a la recension de tous les risques dans l'entreprise, et au regard de ces risques identifiés, des mesures correctrices, si vous voulez, notamment de prévention primaire, pour supprimer le risque à la source tant que cela est possible. Effectivement, l'élaboration du document unique est le fait de l'employeur, c'est de sa responsabilité, mais il doit en informer le médecin du travail. Donc déjà, avec le document unique, nous avons une idée des risques, de surcroît. C'est là que je vous dis que ça fait une double contrainte, parce que la loi actuelle oblige les médecins du travail à établir ce qu'on en appelle une fiche d'entreprise, avec le descriptif par le médecin du travail, si vous voulez, des risques éventuels dans l'entreprise. Et quand nous ne pouvons pas le réaliser nous-mêmes, physiquement, parce que les journées n'ayant que 24 heures, vous voyez, et donc nous ne pouvons pas tout faire, nous avons avec nous ce que l'on appelle maintenant des pluridisciplinaires, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans les services de santé au travail, mais qui ne sont pas des médecins et qui sont là pour nous aider, notamment pour aller faire les études de poste, les études d'entreprise, voire aider à la réalisation des dites fiches d'entreprise. Donc, peu ou prou, nous connaissons les risques dans l'entreprise.
Alors justement, j'allais vous demander comment vous travaillez avec les entreprises, c'est-à-dire que ce sont directement les entreprises qui vous contactent en vous disant, bah voilà, nous on a besoin d'un médecin du travail pour tant de salariés, tant de collaborateurs, on va vous envoyer la semaine prochaine quelqu'un qui vient de rentrer dans l'entreprise, c'est comme ça que ça se passe ?
À peu près, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui amène qui obligeait, parce que ça a changé un tout petit peu, les entreprises d'un certain volume en personnel, c'était un peu plus de 2000 salariés, d'avoir leur propre service à l'intérieur de l'entreprise. Ça s'appelle un service autonome, c'est comme ça qu'on les dénomme. La nouvelle loi de 2011 ne l'a pas interdit à ces entreprises d'avoir des services de ce genre, mais ils ont aussi la possibilité d'adhérer à des services inter-entreprises. Et là, il y a une obligation géographique. Par exemple, vous devez, en tant qu'entreprise, adhérer à un service qui a un agrément sur la zone géographique où vous êtes installé. L'agrément est donné par le ministère de tutelle, qui est le ministère du Travail. Donc, alors, en Île-de-France, par exemple, où on a les grands centres industriels et urbains, il y a plusieurs services de santé au travail, donc les entreprises ont un relatif choix. Mais dans les zones, disons, de province, il n'y a pratiquement qu'un service par département.
Oui, effectivement, eh oui. c'est un peu compliqué, oui.
Oui, et c'est d'autant plus dommageable qu'il y ait cette obligation, si vous voulez, géographique, que... Ah, disons les choses, j'ai tellement d'ennemis en médecine du travail que je peux m'en faire un peu plus. Effectivement,
nous, on n'a pas envie d'avoir plein de coups de fil.
Non, mais effectivement, quand le service de santé au travail est un très bon service, tant mieux. Donc, il ne peut pas avoir de concurrence déloyale venant d'ailleurs. Quand le service est très mauvais, ce qui peut aussi exister, mais là, la faute est au ministère du Travail qui lui donne quand même l'agrément parfois à des services très mauvais. La question là de la prestation offerte aux entreprises. Alors quand je dis entreprise, j'entends autant les employeurs que les employés. Je ne prends pas fait et cause pour les uns contre les autres. Là, vraiment, on peut dire que les entreprises n'en ont pas pour la somme qu'ils investissent.
Alors, on a parlé de la première réunion, rencontre, examen qui se passe avant l'intégration dans l'entreprise. On parlera dans la suite de l'émission de ce qui se passe une fois tous les deux ans, puisque normalement, on est censé avoir un nouvel examen une fois tous les deux ans. Mais pour l'instant, on fait une pause en musique. À tout de suite.
La vie des entreprises, jusqu'à midi sur Vivre FM, Alice Farcoa.
Dans quelques minutes, vous retrouverez votre rubrique « Les 3 minutes pour l'emploi ». Mais tout de suite, nous sommes toujours dans la vie des entreprises avec le docteur Ange Mésadry, médecin du travail. Nous avons une question d'un auditeur. Guillaume, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour.
Vous vouliez poser une question au docteur Mésadry ?
Oui, j'avais une question. De savoir qui doit convoquer un employé devant le médecin du travail, parce qu'en fait, moi, ça fait 4 ans que j'ai pas vu le médecin du travail, et je voulais savoir si c'était l'employeur ou le médecin du travail qui convoquait l'employé.
Vous êtes employé depuis combien de temps dans cette entreprise, Guillaume ?
Depuis 7 ans.
Bon, le médecin du travail va vous répondre.
Alors, effectivement, ce que vous dites est tout à fait anormal. La législation, comme je le disais tout à l'heure, risque de changer, mais pour l'instant... les salariés ont des visites régulières qui ne doivent pas excéder, entre deux visites, hein, ils ne doivent pas excéder une période de 2 ans. Donc là, vous avez déjà doublé la mise. Et quand je dis vous, c'est pas vous en tant qu'individu, bien sûr, mais c'est votre employeur, parce que c'est de la responsabilité de l'employeur de faire passer les visites qui sont obligatoires. Je cite les visites obligatoires en fonction de la législation actuelle. Elle changera peut-être, mais la législation est aujourd'hui celle-ci. Il y a des visites obligatoires d'embauche, des visites de reprise de travail, alors 4 types de visites de reprise, après maternité, mais a priori ça ne devrait pas vous concerner directement, accident du travail, maladie professionnelle ou maladie ou accident qui n'ont rien à voir avec un problème professionnel. Là, ce sont des obligations. Et puis, il y a les visites dites périodiques. Là aussi, c'est une obligation de l'employeur. C'est donc à l'employeur de demander la visite. S'il ne le fait pas et que vous avez un accident, sa responsabilité pourra être lourdement et gravement engagée. Ce n'est jamais nous, médecins du travail, qui convoquons les gens aux visites de médecine du travail. C'est une obligation de l'employeur. Alors, et je précise que pour ce qui est des visites obligatoires, c'est aussi une obligation des salariés. Par exemple, pour un salarié refuser de passer une visite d'embauche, ça peut être un motif de licenciement immédiat venant de l'employeur. Oui, c'est à ce point-là, oui.
Donc, qu'est-ce que vous conseillez à Guillaume là ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille voir son employeur en lui disant bah, « ça fait 4 ans que je n'ai pas été convoqué ».
Par exemple, alors, maintenant, dans la mesure où...
Pardon, on vous entend pas, Guillaume ?
Ah, c'est un petit peu bizarre que ce soit à moi de faire la démarche,
oui,
d'aller voir mon employeur pour lui dire bah, « j'ai pas passé une visite médicale depuis 4 ans ».
Ah oui.
Ça, c'est bizarre quand même, c'est pas à moi de faire ça.
Ah ben, c'est bien ce que je vous dis. Effectivement, ce sont des obligations de l'employeur. Par contre, si vous voulez, c'est un petit conseil également. Si vous aviez un problème de santé qui fait que vous avez des difficultés sur votre poste de travail, vous avez toujours le droit de demander la visite vous-même au médecin du travail. Mais c'est un cas un peu différent, vous voyez. Là, je répondais au début de votre question sur les, relativement aux obligations légales de l'employeur. L'employeur doit vous envoyer passer vos visites de médecine du travail.
Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Ça relève de l'inspection du travail, au minimum.
Donc il faut que Guillaume saisisse l'inspection du travail.
Alors, moi, je ne suis pas va-t-en-guerre, je dis les choses, vous voyez. Il vaut mieux toujours qu'il y ait un arrangement et que tout se mette en place tranquillement par la concertation, mais là, je citais la loi, effectivement, là, ça la relève de l'inspection du travail. Et si, entre-temps, par malheur pour vous, vous aviez un accident grave, effectivement, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée, parce que l'on pourrait penser qu'il vous a maintenu sur un poste de travail qui n'était plus adapté à votre état de santé, et là, sa responsabilité serait très lourdement, très 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 lourdement engagée. Et je dis toujours, quand je suis invité, vous voyez, par des organisations patronales, je dis franchement, pour vous, chef d'entreprise, le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. Qu'est-ce que ça peut coûter d'envoyer un salarié en visite du travail, ça, entre guillemets, je parle du côté des employeurs, hein, ce n'est pas mon jugement personnel. Ça coûte un peu de temps, ça coûte un peu d'argent, certes, pendant que la personne, le salarié est en visite, certes, il n'est pas à son poste de travail, mais quand on met en parallèle le risque juridique pour l'employeur par rapport à ce que ça lui coûte, vraiment, 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 le jeu n'en vaut pas la chandelle.
On espère qu'on a répondu à votre question, Guillaume, et que vous allez trouver une solution à l'amiable avec votre employeur.
Je l'espère, je vous tiens au courant si vous voulez.
Absolument.
Ah, très volontiers.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Quel est le degré d'influence du médecin du travail vis-à-vis de l'entreprise, docteur Mesadry ?
C'est très variable. Je vais le dire sur le mode de l'humour. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc si l'entreprise ne veut pas jouer le jeu et qu'elle considère que la médecine du travail, c'est une corvée comme une autre, une contrainte financière comme une autre, que les cotisations de médecine du travail...
Voire que ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien ou c'est une taxe. Là, évidemment, nous n'allons pas avancer beaucoup. Alors, il y a quand même un grand nombre d'entreprises qui pensent ça. Là, les relations sont limitées au minimum. Et le plus souvent, elles passent par la voie réglementaire. Nous sommes obligés de faire constamment allusion au code du travail et aux responsabilités des employeurs. Pour ma part, ce n'est pas comme ça que je considère mon travail, vous voyez ? Parce que je pense que le médecin du travail, et là je vous recite la loi, est à la fois le conseiller de l'employeur comme de l'employé, des uns et des autres, et qui dit conseil dit confiance, et la confiance elle ne s'établit pas à coup de procédures légales et à coup de menaces. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir les meilleures relations possibles, non pas... Alors quand je fais un cours à la fac, comme sur la médecine du travail, il y a toujours quelqu'un qui me fait cette remarque, donc j'anticipe. Non pas, dis-je, parce que je pense que la médecine du travail doit être systématiquement du côté des employeurs, c'est pas du tout ce que je pense et ce n'est pas notre rôle. Mais néanmoins, quand un médecin du travail a une bonne relation avec l'entreprise entendue dans toutes ses composantes, les employeurs, la hiérarchie, les salariés, là, effectivement, les conseils qu'il peut donner peuvent porter. Mais ce sont des conseils, ce sont des avis. Préconisations et avis n'ont pas valeur coercitive. Ce sont des conseils.
On continue à parler avec vous, docteur Mesadry, du rôle du médecin du travail dans la suite de l'émission. Mais pour l'instant, on laisse la parole à notre coach qui répond aux questions sur l'emploi de nos auditeurs. Une question, une réponse de notre coach, ce sont les 3 minutes pour l'emploi. Barbara est responsable de la mission handicap d'un grand groupe de transport. L'un de ses collaborateurs s'est récemment absenté plusieurs mois et elle a remarqué qu'il semblait très fatigué, qu'il avait des difficultés à se concentrer et même qu'il oubliait quelquefois certaines tâches qu'il accomplissait auparavant sans problème. Elle a interrogé le médecin du travail qui a reçu ce salarié après son retour au travail, mais celui-ci n'a rien voulu lui dire sur l'état de santé de cette personne. Xavier Roux, vous êtes consultant associé au sein du cabinet Défi RH, un cabinet de recrutement et de conseil spécialisé dans l'emploi des travailleurs handicapés. Comment Barbara peut-elle aider ce salarié sans le blesser ou le mettre mal à l'aise ?
C'est vrai que, notamment, bon, tout ce qui va être cabinet de recrutement spécialisé, les ressources humaines, la mission handicap, peuvent anticiper parfois des aménagements à mettre en place suite à l'échange avec le collaborateur en situation de handicap. Mais ce qui va vraiment être essentiel, et c'est là que le rôle du médecin est très important, c'est que tout cela doit être validé par ce médecin du travail. Donc le médecin, lui, va préciser ce qui est nécessaire ou pas au niveau des aménagements et l'aptitude ou inaptitude du collaborateur à tenir son poste. Donc, en fait, dans les faits, la mission handicap ne peut pas passer outre les conclusions médicales. Je prends un exemple, il ne serait pas possible de mettre en place donc, du travail à distance pour un collaborateur, même si ça semble pertinent, si le médecin ne le juge pas nécessaire. Donc ça, cet aval médical est essentiel pour avancer par la suite.
Alors quel est vraiment le rôle du médecin du travail s'il ne peut communiquer aucune information sur le patient ? C'est-à-dire que si le patient s'obstine à ne pas parler de son handicap, même à la mission handicap, comment faire en fait pour l'aider ?
C'est vrai qu'il y a le secret médical par rapport au médecin vis-à-vis du patient. En fait, le médecin du travail, il ne peut pas communiquer donc d'informations sur le handicap en lui-même, tout ce qui va être la maladie ou le traitement médical, ça relève du secret médical. En revanche, il se doit d'indiquer les aménagements éventuels à mettre en place et les contre-indications aussi qu'il peut y avoir sur un poste. Donc dire voilà, ce poste-là peut être occupé mais à mi-temps ou occupé sous certaines conditions. Et ça, il peut l'indiquer effectivement et au collaborateur qui doit lui ensuite le transmettre à mission handicap et aux ressources humaines.
Le rôle du médecin aussi, c'est peut-être de rassurer la personne qui est en face de lui en lui faisant comprendre que de toute façon, il a tout intérêt à parler de ses difficultés.
Tout à fait. C'est vrai que c'est important que le collaborateur voit le plus que ça peut être pour lui. Et c'est vrai que parfois, ça prend du temps aussi pour le collaborateur pour l'accepter ou pour comprendre cela. Mais c'est important qu'il y ait ce discours, effectivement, du médecin du travail qui peut rassurer le collaborateur sur le fait que pour être dans de bonnes conditions de travail, il peut y avoir besoin d'aménagements qui feront que le collaborateur puisse tenir son poste aussi sur le long terme et n'aggrave pas sa santé.
Docteur Mesadri, c'est vrai qu'il est compliqué ce lien entre le patient qui est devant vous et qui vous expose ses difficultés et l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Comment vous faites pour que les choses se passent bien, parce que quelquefois, effectivement, on comprend très bien, hein, le patient peut avoir des difficultés à parler de ses problèmes, de sa maladie, de son handicap à son manager.
Alors, effectivement, l'interview est très bien faite. Ce qu'a dit le coach est plutôt bien. Donc, je vais apporter que des petites précisions techniques. Effectivement, le médecin, lui, est toujours tenu au secret médical. Et dans notre pays, le secret médical est absolu. Vous, en tant que personne, vous avez le droit de raconter tout ce que vous voulez sur votre état de santé, mais si je suis votre médecin du travail, moi, je n'ai pas le droit d'en parler. Vous voyez ? Et donc déjà, premier élément, sauf dans un cas particulier dans le monde du travail sur lequel je reviendrai. Mais globalement, nous avons en France un secret médical qui est très, très restrictif, très, très dur. Vous voyez, d'autres pays sont beaucoup plus souples que nous. Nous, non. Ça, c'est des avantages, ça, c'est des inconvénients. Donc, le médecin du travail, lui, ne peut pas parler sur l'état de santé. Il ne peut pas parler du diagnostic médical. Par contre, effectivement...
Il ne peut pas alerter l'entreprise.
Alors, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Quand on parle, pour un DRH, j'explique toujours ça quand je fais des cours à des DRH, il ne faut pas parler de diagnostics médicaux, il faut parler des contraintes du travail, des gestes du travail, par exemple, telle personne doit travailler avec les mains au-dessus de la tête. Voilà, voilà, ça c'est la contrainte du travail. Et le médecin du travail dira non, la personne ne peut pas. Maintenant, la personne ne peut pas parce qu'il lui manque un bras, c'est une chose, parce qu'elle a telle maladie rhumatologique ou telle maladie neurologique. Ça, on ne parle pas du diagnostic.
D'accord.
On parle des contraintes liées au travail. Effectivement, si on ne parle des contraintes liées au travail, c'est un peu ce que disait le coach, si vous voyez, des contraintes. Le travail implique ceci, ceci, cela. Qu'est-ce que peut faire ou ne peut pas faire le salarié? Quelles sont vos propositions? Si on parle des contraintes liées au travail, là, la question du secret médical ne se pose pas. Donc, il faut parler travail, il ne faut pas parler médecine.
On fait une pause en musique et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Jusqu'à midi sur Vivre FM, la vie des entreprises, Alice Farcoa.
De retour dans la vie des entreprises, nous sommes toujours avec Ange Bézadry, médecin du travail. On a plein de choses à dire. Je pense que vous allez être obligé de revenir. Peut-être, je sais pas, moi, tous les mardis, par exemple, un truc comme ça, parce qu'on a pas mal de sujets qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Vous êtes d'accord?
Revenir, bien sûr.
Voilà, tous les mardis?
Alors, ça dépendra de mon emploi du temps, mais le plus possible, oui.
Alors, dans le cas où les salariés, parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de bien-être au travail, de burn-out aussi, de stress au travail, dans le cas où les salariés sont soumis à un stress particulier, de quelle façon le médecin du travail peut les aider?
Alors là, c'est un problème très compliqué parce que se mêlent plusieurs éléments. D'abord, il faut établir un bon diagnostic. Quand je dis un bon diagnostic, à deux niveaux. Par rapport à l'individu que nous avons devant nous, quelle est la cause réelle de sa souffrance? Est-ce que cela vient vraiment du travail? Ce qui est bien sûr possible et qui malheureusement existe de plus en plus. Ou est-ce que, à l'occasion du travail, le salarié exprime une plainte plus profonde, une plainte personnelle, et parfois se manifeste la décompensation d'un état psychologique ou psychiatrique. Malheureusement, nous sommes obligés d'intégrer ce paramètre-là.
Et vous avez le temps, vous avez la possibilité, vous, quand vous avez un patient comme ça en face de vous, qui vient pour une consultation qui dure quoi, 20 minutes,
Alors,
une demi-heure?
Nous avons toujours la possibilité de faire revenir les personnes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure à l'auditeur qui nous a posé la question, mais nous avons toujours la possibilité de demander aux personnes de revenir pour établir mieux notre diagnostic.
Vous le demandez directement à la personne ou vous le demandez à l'entreprise?
Oh, nous mettons sur la fiche d'aptitude salarié à suivre, à revoir. Voilà. Comme ça, c'est clair. Donc là, il y a cet aspect-là de la question, si vous voulez, de bien poser le diagnostic. S'agit-il d'une souffrance personnelle ou s'agit-il vraiment de quelque chose qui est lié au travail? Si c'est une souffrance personnelle, ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupera pas. Hein. Ce n'est pas
D'accord.
ce que je suis en train de dire, hein, que les auditeurs ne se méprennent pas. Mais il faut bien comprendre que si nous rentrons dans le cadre du risque psychosocial et que l'entreprise est une entreprise maltraitante, pour prendre les mots d'aujourd'hui, il faut savoir que pour tout l'ensemble de la hiérarchie, c'est du pénal dont il s'agit. Et là, il me semble que les médecins du travail d'avoir quand même une responsabilité de ne pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'on peut arriver à briser la vie d'un individu. Ce n'est pas parce qu'on est un chef d'entreprise qu'a priori on est une mauvaise personne, vous voyez. Donc il faut bien appréhender les choses et laisser le temps au temps, tout ce qu'il est nécessaire pour bien établir le diagnostic. Quand on l'a établi, effectivement, il y a des entreprises qui sont maltraitantes. Là, effectivement, nous avons toujours la possibilité de faire une alerte officielle qui peut même aller, des alertes, peut même aller très loin, hein, parce que ça relève du pénal. Hein.
Parce que par exemple, si ça se passe vraiment mal dans une entreprise et que vous avez plusieurs collaborateurs qui viennent vous voir en vous répétant les mêmes choses, en vous disant on a un manager, on dit beaucoup ça maintenant, toxique,
ouais. qui nous
fait subir des harcèlements moraux, est-ce que ça vous pouvez...
Oui, bien sûr, nous le faisons, mais toujours pareil, si vous voulez. Alors, que les auditeurs, là encore, ne mésinterprètent pas ce que je vais dire. Il faut toujours faire attention, parce qu'on a pu aussi voir des collectifs, vous voyez, de personnes qui se liguaient contre une autre.
Oui.
Donc nous, il faut faire très attention à ça. Si il s'avère que la personne est maltraitante, oui, bien sûr, nous pouvons faire l'alerte nécessaire pour que, auprès de la hiérarchie de l'entreprise, afin que cela cesse. Mais notre alerte doit toujours pareil, respecter le secret médical, respecter aussi le fait que le médecin dans l'entreprise et le médecin du travail de tout le monde, depuis le chef d'entreprise jusqu'à toute la hiérarchie. Et éventuellement, le manager toxique, c'est aussi un salarié du médecin, enfin, dont le médecin du travail a la charge du point de vue de la santé.
Donc vous connaissez tout le monde, effectivement.
Et oui, et il faut donc faire attention à ce que l'on fait. Je vous dis ça, il m'est arrivé, pas plus tard que l'an dernier d'ailleurs, dans deux entreprises, de faire deux alertes vraiment très sérieuses, si vous voulez, hein, mais vraiment très sérieuses. Hein. Mais il ne faut pas y aller à la légère. Il faut prendre en compte tous les paramètres. Il ne faut pas être, comme on dit dans le midi, le ravi de la crèche qui croit ce qu'on lui raconte. Il faut écouter les salariés, il faut croiser les témoignages, il faut aussi écouter la voix de la hiérarchie. Et puis, dans la mesure où nous connaissons tout le monde, là, nous arrivons à poser notre diagnostic. Il y a même, dans le cadre de la souffrance au travail, et à titre personnel, j'ai souvent recours à ce dispositif dont je vais vous parler. Il existe dans les hôpitaux parisien, puisque nous sommes à Paris, comme mon accent ne l'indique pas, il y a des consultations dites de souffrance au travail dans les services de pathologie professionnelle. Et effectivement, quand les choses me paraissent un peu étayées, je demande un regard extérieur que peut apporter cette consultation de souffrance au travail.
Alors, tout autre sujet, parce que c'est vrai qu'on a encore dit, on a beaucoup de choses à aborder ce matin. On parle beaucoup des personnes atteintes de maladies invalidantes. On sait qu'on va travailler de plus en plus longtemps, que les traitements de ces maladies, comme par exemple la sclérose en plaques ou un cancer, sont de mieux en mieux supportés par les patients. Ça veut dire qu'il est indispensable d'aider et d'accompagner les personnes atteintes de maladies invalidantes à garder leur emploi. De quelle façon le médecin du travail peut-il aider, faire le lien entre le salarié et l'entreprise? Est-ce que c'est au salarié de demander au médecin du travail un mi-temps thérapeutique? Est-ce que ce n'est pas le rôle du médecin du travail de donner un mi-temps thérapeutique? Comment ça se passe?
Alors,
il y a plein de questions. Hein.
Alors, effectivement, le maintien dans l'emploi des personnes atteintes de pathologies diverses et variées, de handicaps divers, ça, c'est une mission qui a été consolidée du point de vue législatif par la loi de 2011. Bon, je vais m'adresser des fleurs, j'ai travaillé sur cette loi et là, je suis assez fier de ce qui s'est passé. Là, je le reconnais. Parce qu'effectivement, c'est le cœur noble de l'activité du médecin du travail. Ouais. Vous voyez, les sempiternelles visites périodiques qui sont totalement inintéressantes pour ceux qui les subissent et pour nous qui les faisons, ça c'est une chose en médecine du travail. Par contre, le maintien dans l'emploi, là vraiment, c'est le cœur noble de la spécialité. Et effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques invalidantes. Ces personnes-là sont amenées sans doute à travailler de plus en plus longtemps, sauf si l'économie s'effondre définitivement, ce qui est un autre sujet, vous voyez. Mais et là, nous sommes vraiment sur la partie noble, la noblesse de la santé au travail. Effectivement, la première personne qui est l'actrice de son maintien dans l'emploi, c'est le patient, le salarié lui-même. Nous ne pouvons rien faire contre les gens, parce que en réalité, nous ne pouvons accompagner que les personnes qui demandent à être accompagnées. Si une personne ne veut pas parler de son état de santé, si elle ne veut pas parler de son handicap, si elle ne veut pas, par exemple, être reconnue travailleur handicapé ou rien d'autre, nous ne pouvons pas le lui imposer. Et c'est tout à fait naturel.
Et vous pouvez lui conseiller, parce que les personnes ne sont pas forcément informées des dispositifs.
Alors, faut-il encore qu'elles viennent nous voir?
Oui.
C'est ça la question. Mais quand elles viennent, oui, par exemple, quand le médecin du travail est bien connu dans l'entreprise, quand un médecin du travail suit une entreprise depuis longtemps, vous voyez, il peut se faire qu'il y ait un climat de confiance qui s'est instauré et que là, les personnes viennent spontanément dire des choses. Soit des personnes que nous suivions depuis longtemps mais qui ne nous avaient pas dit telle ou telle chose, telle ou telle particularité de leur état de santé, soit des nouveaux qui débarquent, mais comme ces personnes-là connaissent leur médecin du travail de réputation, elles parlent, vous voyez. Et là, effectivement, nous pouvons les accompagner, oui. Alors, pour ce qui est du temps partiel thérapeutique, ce n'est pas le médecin du travail qui le demande. Le temps partiel thérapeutique, ça c'est une particularité du droit. Le temps partiel thérapeutique est une mesure sécurité sociale. Pour la sécurité sociale, le temps partiel thérapeutique vaut arrêt de travail. Pourquoi ? Parce que la Sécurité sociale continue à payer des prestations. Donc en gros, la boucle est celle-ci. C'est le médecin traitant qui le prescrit le temps partiel thérapeutique en rédigeant un arrêt de travail où il marque temps partiel thérapeutique à partir du temps jusqu'à temps. C'est le médecin conseil qui l'accepte ou qui le refuse. En fait, si le médecin conseil ne le refuse pas, c'est que c'est accordé. Et le médecin du travail le valide auprès de l'employeur. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'il relève du code de la santé publique ou du code de la sécurité sociale n'est pas opposable à l'employeur. Par exemple, si votre employeur reçoit, venant de votre médecin du travail, un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, l'employeur peut dire ben « moi j'ai besoin de mon collaborateur à temps plein, qu'est-ce que c'est cette histoire-là » L'avis d'un médecin traitant ou l'avis d'un médecin de la sécurité sociale n'est pas opposable à l'employeur. Par contre, si le médecin du travail a été mis dans la boucle et que le médecin du travail rédige sur la fiche d'aptitude reprise de monsieur ou madame à temps partiel thérapeutique, l'employeur peut toujours refuser. Mais là, il faut qu'il argumente son refus.
Dernière question, il nous reste une minute, ça va être compliqué pour vous, docteur Mézandri. À quel moment vous vous dites, là, il y a une situation d'inaptitude ?
Ben, j'essaie de me le dire le moins possible, mais malheureusement, quand on constate une inadéquation croissante entre l'état de santé de la personne et les contraintes de son travail, là, effectivement, parfois, ne serait-ce que pour protéger l'intégrité physique de la personne, il faut passer par l'inaptitude. Et parfois, malheureusement, pour la personne qui subit ce diagnostic d'inaptitude, c'est un drame pour elle. Mais là, on est coincé entre le droit au travail, le droit de la santé, et clairement, en n'oubliant pas le droit au travail, pour ma part, je privilégie toujours le droit à la santé. Un travail, ça peut se retrouver. La santé, quand elle est détruite, elle est détruite.
Merci beaucoup, docteur Mézandri, d'être venu nous voir ce matin. Comme vous allez revenir, je lance un appel à nos auditeurs. Vous pouvez appeler au 01 56 88 40 20, poser nos questions, puisque le docteur Mézandri nous a dit qu'il viendrait régulièrement nous rendre visite. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Lim d'avoir réalisé cette émission. Vous pouvez la réécouter, la podcaster, retrouver toutes les informations sur vivrefm.com. Rubrique La vie des entreprises. Bonne journée à tous à l'écoute de Vivre FM. Dans quelques minutes, les infos, puis la suite de vos programmes. À très vite.
Vivre FM, podcast.